On va essayer donc d'animer ce débat rapidement. D'abord, merci à la BBI pour cette invitation. Merci à vous deux de l'avoir accepté. Peut-être on va vous présenter rapidement avant de dire un mot sur le film, parce que je pense que c'est bien de faire les choses dans cet ordre. Donc, Solveig, je commence par vous. Que dire de vous ? On vous connaît depuis 89 à travers une série de courts-métrages, puis de longs-métrages, puis de documentaires que vous n'avez finalement jamais cessé d'alterner. Moi, j'ai compté 21 courts-métrages depuis vos débuts.
Je sais pas si c'est des courts-métrages, enfin c'est beaucoup de documentaires. J'ai fait du documentaire pendant 10 ans. Mm-hmm. Et après j'ai fait un film qui s'appelle Haut les cœurs, et après
voilà,
j'ai fait
qui a été vraiment la révélation en 1999, qui a révélé Karine Viard, qui a, je crois, eu le César la meilleure actrice, et puis également Laurent Lucas qui était dans le film. Et puis ensuite viendront d'autres longs métrages comme Stormy Weather et Back Soon. En fait, j'avais une question à vous poser qui va vous paraître bête, mais je voulais savoir comment ça va. En fait, je voulais vous demander comment ça va, parce que j'imagine que c'est un peu schizophrène de venir vous faire parler d'un film que vous avez tourné il y a longtemps, alors que vous êtes en train de préparer la sortie d'un long métrage qui sort, si mes notes sont exactes, le 20 mars, c'est ça ?
Ouais, en fait, c'est presque... Je suis un peu fatiguée. C'est presque pire que ça, ou mieux que ça. Enfin, disons, j'ai un film qui sort le 20 mars, qui s'appelle Queen of Montreuil, dans lequel il y a des Islandais. Et je suis en train de monter un autre film que j'ai tourné, qui s'appelle Lulu, femme nue, avec Karine Viard. Donc aujourd'hui, on était à un moment du montage où on a... tout défait, c'était un énorme chantier pour tout reconstruire autrement. Donc voilà, c'était une grosse journée, mais je suis très contente d'être là et je suis contente de revoir ce film parce que je les vois toujours, ces jeunes gens, et je les aime beaucoup et ils ont tous fait des belles choses dans leur vie et ça m'émeut assez de les revoir comme ça. Et juste ce que je voulais dire par rapport à ce film, c'est qu'en fait, c'était une commande, c'était une série, c'était faire le portrait d'une ville d'Europe à travers des jeunes gens, à travers une génération. Donc, il y a eu plusieurs villes qui ont été filmées. Et moi, on m'a confié Reykjavik. Et donc, voilà, c'est la raison de ce film.
C'est pas la seule. Enfin, si on vous l'a confié, c'est lié aussi à votre identité islandaise. Peut-être qu'on peut... On peut en dire un mot, c'est votre maman qui est islandaise ?
Oui, ma maman est islandaise, je l'aime beaucoup, je suis très fière d'elle. Elle s'appelle Högna Sigurðardóttir et c'est la première femme architecte d'Islande. C'est une sorte de, je dirais, de Le Corbusier nordique. Et elle compte beaucoup dans ma vie, elle a beaucoup compté parce que moi je voulais faire des films depuis que j'étais toute petite. Et quand je disais ce rêve, on me répondait toujours « mais les femmes ne font pas ça, il y a Agnès Varda, c'est tout, mais ce n'est pas un métier pour les femmes ». Maintenant, il y en a plein, mais quand j'avais 8 ans, il n'y avait qu'Agnès Varda. Et donc, j'étais en larmes et j'allais voir ma mère et elle me disait « Solveig mín, les filles peuvent tout faire, mais il faut être plus tenace que les hommes ». Elle avait raison et c'est la clé. C'est la clé en général d'ailleurs pour faire du cinéma. Et voilà, je suis née dans une île qui s'appelle Vestmannaeyjar, qui est une sorte de Corse islandaise où il y a 5000 habitants, qui est au sud de l'Islande, et ma famille vient de là. Voilà, et du côté de mon père, il est américain, juif, né à Berlin, de parents roumains, mais il a appris l'islandais. À la maison, on parlait toujours islandais. Enfin, mes parents me disaient toujours, parce qu'à un moment, j'étais un peu perdue quand j'étais petite, entre l'Islande, les États-Unis... la culture juive, on m'a envoyé dans une école allemande, on vivait en France. Donc je rentrais parfois à la maison et je disais « mais je comprends rien, en fait, je suis quoi ?» Et mes parents me regardaient et très solennellement me disaient « tu es une citoyenne du monde et tu as beaucoup de chance ».
Mais cette idée de l'altérité, du rapport à l'autre, à l'étrangeté, à peut-être l'étranger aussi. Est-ce que c'est pas ce qu'on retrouve aussi dans Queen of Montreuil sous la forme manifestement d'une comédie ? Moi, je n'ai pas vu le film, mais j'ai vu la bande-annonce. Est-ce que, juste pour au moins vous assurer de tous ces spectateurs potentiels. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du film?
Bah, en fait, l'idée du film au départ, je ne vais pas monopoliser cette soirée.
Non, mais on a le temps de discuter.
D'accord, ok. En fait, j'ai fait ce film qui s'appelle Baksun, en islandais Skrarput. Et comme on a eu beaucoup de plaisir à écrire et tourner ce film en Islande, avec mon co-scénariste Jean-Luc Gaget, on s'est dit, comme on s'est beaucoup amusé, écrivons une suite. Donc, on a commencé à écrire une suite qui s'appelait Soon Coming, qui devait être tournée entièrement en Islande. Et puis, il y a eu la crise et je me suis dit, c'est peut-être pas très cool. Moi, j'habite en France, que j'aille en Islande chercher des financements là-bas, alors que là-bas, il y a des réalisateurs islandais qui vivent tout le temps en Islande et qui vont avoir du mal à financer leurs films. Et donc, on a changé toute l'histoire et c'est devenu Queen of Montreuil. Après, mes amis islandais m'ont dit, mais c'est stupide parce que tu aurais fait ton film, on aurait eu du boulot. J'y ai pas pensé comme ça. Et donc, on a écrit Queen of Montreuil en faisant... Queen of Montreuil, c'est l'histoire d'Agathe, qui est une femme très déprimée parce qu'elle vient de perdre son mari. Donc, elle se trimballe sans cesse avec l'urne funéraire. Et elle n'arrive pas à faire le deuil. Et en fait, l'arrivée inopinée de deux Islandais, Anna et Ulver, qui vont squatter sa maison et vont l'aider à résoudre, un peu malgré eux, son deuil. Avec l'aide d'un phoque, ça va guérir Agathe. Donc, c'est les Islandais qui viennent à Montreuil pour soigner un deuil. Et voilà, c'est un film un peu dingo, mais en même temps qui a du vrai fond.
C'est clairement dans une veine loufoque qui n'est pas ce que vous avez exploité jusqu'à présent.
Non, enfin, il y avait pas mal ça dans Baksun. Mm-hmm. Voilà, et dans certains documentaires, comme j'ai fait un documentaire qui s'appelle « Que personne ne bouge », qui est l'histoire des cinq braqueuses d'Avignon. C'est des femmes qui ont braqué cette banque. Donc c'était un documentaire grave qui parlait de braquage, etc. Et de femmes, mais en même temps, je crois qu'il est assez drôle. Enfin, elles sont assez drôles. Et j'aime bien essayer de mélanger ces choses-là, que les choses soient... Je sais pas, je trouve que la vie, elle est... Il y a beaucoup d'épreuves dans la vie. On ne nous avait pas forcément prévenu et que finalement, si on a un peu d'humour, ça nous aide à traverser ces choses. Et voilà, je crois, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que j'essaye de montrer dans mes films. Aussi l'idée qu'on est mieux en groupe que seul, ce qui est aussi le cas dans ce documentaire.
Oui, bien sûr. Alors un petit mot avec vous, Pascal Fellono. Moi, je suis très très heureux de vous compter parmi nous puisque... moi, je connaissais votre travail depuis très nombreuses années. C'est un travail photographique dont on va voir des images tout à l'heure, puisque là, vous venez de voir le film de Solveig, mais vous allez pouvoir vous rendre compte de la parenté ou d'une espèce de connivence d'esprit qu'il y a entre leur travail. C'est un travail que j'avais découvert il y a quelques années, qui m'avait beaucoup frappé, parce que vous êtes photographe bordelais, mais vous êtes parti 13 mois, vous m'avez dit, en Islande. Est-ce que vous avez un micro ? Est-ce qu'on va le partager ? Voilà. En plusieurs fois.
En plusieurs fois.
Voilà. Mais vous avez la particularité, selon moi, et vous nous direz, vous, dans le public tout à l'heure, ce que vous en pensez, mais d'avoir ramené des images d'Islande qui sont... tout à fait à rebours des images qu'on voit habituellement des grands paysages islandais ou des espaces impressionnants de cette île. Vous avez choisi un angle tout à fait différent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot avant qu'on voit les images ?
Oui, sans doute un peu. J'ai vécu dans un quartier un peu dans la banlieue de Reykjavik, dans une ville qui s'appelle Hafnarfjordur, je ne prononce pas très bien. Et il y avait cette architecture qu'on voit dans le film de blocs et de...
D'immeubles,
oui, voilà, et des zones marchandes, des choses comme ça, dans lesquelles je me baladais tous les jours, et j'ai décidé, enfin effectivement c'était pas une image que j'avais de l'Islande moi-même au départ, et je me suis mis à photographier Reykjavik et les villes satellites qui sont autour, Kopavogur, Hafnarfjordur, et d'autres. Et voilà. Et...
Avec cette idée quand même d'un paysage urbain où le personnage, où l'individu est presque absent, quasiment.
Oui, mais à part les rues principales de Reykjavik, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde. Enfin, dans les rues que je, dans lesquelles je marchais, je trouvais qu'il y avait souvent des enfants qui jouaient, mais il y avait très peu de gens en réalité. Alors, j'aimais bien l'idée de prendre en photo le décor et pas nécessairement les gens qui habitent dans ce décor.
D'accord, mais on va voir tout ça tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un peu abstrait volontairement. Mais peut-être, on s'est dit tout à l'heure en réfléchissant que. Avant de parler de Reykjavik et de l'imaginaire de cette ville, puisque c'est l'intitulé de cette série de rencontres que propose la BPI, peut-être que c'était pas idiot de resituer quelques points autour de l'Islande. Je ne sais pas parmi vous quels sont ceux qui sont allés en Islande, qui ont fait ce voyage qui est souvent, comme on le dit, le voyage dont on rêve, un des voyages qui marque, ou un des voyages dont on a très envie, mais je pense qu'il y a peut-être quelques petits repères à donner sur à la fois Reykjavik et donc à la fois l'Islande. L'Islande qui est donc littéralement une terre de glace, qui est située donc entre le Groenland et l'Écosse, qui est beaucoup plus proche finalement du continent américain que de l'Europe, à laquelle elle est pourtant complètement liée culturellement et historiquement. C'est un territoire de 103 000 km². On dit souvent que c'est une petite île, ce qui est à la fois complètement vrai et complètement faux, puisque c'est une île qui est plus grande que l'Irlande, un tout petit peu plus petite que l'Angleterre, et le territoire de l'Islande équivaut à celui du Bangladesh, qui abrite quand même plus de 100 millions d'habitants. En Islande, par contre, il n'y a que 320 000 habitants, ce qui fait de ce pays le moins, en tout cas, la densité de population la moins importante d'Europe. Ça n'est pas rien de le dire comme ça. Et puis, il faut penser que Reykjavik, en elle-même, compte à peu près 100 000 habitants et son agglomération amène le total à 200 000, ce qui fait donc les deux tiers du pays. Donc s'il y a quelques rues qui ne sont pas très peuplées dans Reykjavik, on peut imaginer ce que c'est pour le reste de l'île. Que vous dire d'autre que ce pays, finalement, dont on parle beaucoup depuis quelques années, n'est indépendant du Danemark depuis 1944 et que finalement, c'est au sortir de la guerre que la modernité, comme le disent vos personnages, Solveig, arrive à grands pas et qu'on quitte les territoires ruraux et excentrés de l'Islande pour aller donc au sud-ouest vers la capitale Reykjavik. Donc une jeune république, même si son parlement est historiquement le plus vieux d'Europe et remonte à 930. Voilà, donc je ne vais pas vous assommer de référence, mais ça me semblait pas innocent de vous donner ces éléments. On en parlait également dans le documentaire tout à l'heure sur ce rapport entre le tout jour et le tout nuit pendant 9 mois et donc cet été qui ne s'arrête pas pendant 3 mois, ou en tout cas ce jour continu. C'est une ville qui est donc la capitale la plus septentrionale au monde. Elle est située à 250 km au sud du cercle polaire, coincé entre deux fjords et donc longé par une baie qui se dit Vik en islandais, si je ne me trompe pas. Et donc, peut-être que c'est tous ces éléments peuvent amener à dire que c'est vraiment à Reykjavik que les choses se passent en Islande, même si Akureyri est une ville au nord également peuplée. C'est quand même à Reykjavik que se situe le centre politique, culturel, économique et intellectuel du pays. Voilà. Que vous dire d'autre pour le moment ? Peut-être si parler de ce moment de basculement dans les années 80 et 90 de la déréglementation financière qui a placer Reykjavik sur la carte de l'échiquier mondial et qui a fait que l'économie de la finance est devenue une des économies très très importantes de ce pays et qui l'a sans doute amené de manière assez évidente vers, vers la crise qu'on a connue en, en 2008. Mais voilà, d'une économie de la pêche à une économie de la finance, c'est un peu ce qui s'est passé dans les années 90. Voilà, c'est un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne. Pour autant, il appartient ou il relève en tout cas de l'OCDE et a des accords avec l'OTAN et l'ONU. Et pour ce qui nous occupe donc aujourd'hui, à savoir l'imaginaire, moi, il me semble que à chaque fois qu'on évoque le mot Islande et qu'on évoque Reykjavik, qu'on évoque ce, ce territoire, il y a un imaginaire mental qui se déclenche immédiatement. C'est un des pays d'Europe et un des pays d'Europe du Nord qui a, je pense, le plus fort capacité d'attractivité, ouais, d'imaginaire. Je crois que c'est ce qu'on retrouve en tout cas depuis, depuis Jules Verne dans, dans la fascination occidentale pour ce, ce, ce territoire qui est donc constitué de très nombreux volcans, de glaciers assez immense. Si je ne me trompe pas, un des glaciers islandais est aussi grand à lui tout seul que la Corse. On parle de ces geysers, de cette activité géothermique qui fait qu'il y a sans doute dans, dans l'âme et l'identité islandaise quelque chose d'à la fois très éruptif et très instable et qu'il y a sans doute aussi, et c'est ce que vos personnages finalement ne cessent de dire, un sentiment peut-être de, d'isolement dans un territoire un peu au bout du monde, un peu isolé de tout dans, dans l'océan Atlantique. Néanmoins, comme, comme un de vos personnages également le dit, l'économie touristique est extrêmement importante aujourd'hui en Islande, sans doute encore plus aujourd'hui qu'avant la crise. Et voilà, moi je voulais vous demander à tous les deux, peut-être en commençant par vous Pascal, quel était précisément, vous, avant d'y être allé, votre, votre rapport à l'Islande ? Quelle idée de l'Islande vous aviez ? Quelle idée de Reykjavik vous aviez ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous, photographe français bordelais, à aller photographier cette, cet espace-là ?
Au départ, je n'avais aucune représentation. Je savais seulement que les chiens avaient été interdits à Reykjavik en 1901. Et comme j'ai très peur des chiens et que c'est un endroit où j'ai su ça très adolescent et je rêvais d'y, d'y aller pour cette raison. Et ensuite, j'ai rencontré une Islandaise et je l'ai suivie en Islande. Et c'est la raison de mon voyage. Bon, comme je suis photographe, j'y ai photographié un certain nombre de choses, de paysages. Mais c'est venu... enfin, le voyage s'est fait un peu par hasard du fait de cette rencontre. Mais je n'avais aucune représentation. Je savais seulement ce que je viens de vous dire... sur les chiens.
Et vous, Solveig, donc vous y êtes né en Islande ? Vous y avez grandi et vécu ?
Non, je suis né en Islande, mais je n'ai pas grandi là-bas. En fait, mes parents étaient déjà en France et ils sont allés à Vestmannaeyjar pour qu'on naisse là-bas. D'accord. Mais on allait tous les étés avec ma sœur.
Et quand vous y alliez, est-ce que ce sentiment de bout du monde, d'espace un peu particulier, un peu privilégié, vous l'avez ressenti ou aujourd'hui encore, est-ce que ça vous semble être quelque chose qui est une idée convenue, une idée reçue ou quelque chose qui finalement est important et préside à un certain nombre de choses et à ce désir qu'on peut voir chez cette jeunesse de bouger, de s'évader?
Mais je pense quand même que quand on a leur âge, enfin, on a envie de sortir de là pour voir ailleurs. Après, souvent, les gens reviennent. Ils ont fait un tour, voilà, ils sont allés ailleurs, ils ont fait leurs études, et souvent, ils reviennent après. Mais ça me semble assez, assez normal, quoi. Moi, le souvenir que j'ai, enfin, avec ma sœur, c'est plus qu'on allait à Reykjavik parce qu'on avait de la famille, mais après, on voulait aller retrouver nos grands-parents dans l'île. Et donc moi, Reykjavik, je faisais beaucoup la gueule en fait, parce que ça m'intéressait pas du tout. Je voulais aller dans cette île. Et souvent, il faisait trop mauvais, les avions ne pouvaient pas y aller, et donc il fallait attendre à Reykjavik. Et ça nous embêtait plus que tout, quoi. Mmh. Alors que là-bas, dans cette île, il y avait des trucs super, des bébés macareux, enfin plein de choses passionnantes pour les enfants qui n'avaient pas à Reykjavik en fait. Mmh.
Donc si on revient un peu sur votre film, finalement on retrouve pas du tout dans le film les images et les clichés qu'on a habituellement de l'Islande, c'est-à-dire ces grands paysages très spectaculaires, ces volcans, ces glaciers, ces geysers.
On voit le Blue Lagoon juste.
On voit le Blue Lagoon, effectivement, qui est un lieu extrêmement touristique et un peu emblématique de la politique touristique de l'Islande. Mais comment vous avez construit l'idée de départ du film ? Vous aviez envie de vous focaliser sur quelques personnages, sur la jeunesse, et comment vous est venu le titre ensuite ? Est-ce que cette idée d'elfe, elle est au principe de la réalisation ou est-ce qu'elle arrive après ?
Non, disons d'abord, j'ai cherché les gens. Donc on a fait un sort de casting. En fait, on a mis une annonce carrément dans un journal en demandant aux gens de nous contacter. On posait des questions. Vous avez quel âge ? C'est quoi vos rêves ? Etc, etc. Donc on en a vu plusieurs. Et puis j'ai choisi ceux-là. Certains se connaissaient entre eux. Mmh. Et après, je me suis dit, je vais montrer de la ville... ce que eux en vivent, c'est voir la ville à travers eux. Et ce que je trouvais intéressant avec ces jeunes gens-là, c'est que y en avait une qui était photographe ou qui voulait le devenir, donc qui photographiait ses amis mais dans la ville. Il y en avait un autre, David, qui faisait la peinture. Et aujourd'hui, il est peintre. Assez reconnu. Et donc l'idée de leur trouver un lieu dans la ville où ils pourraient faire la fresque. Donc ça, on a cherché, on a mmh. travaillé avec la ville pour trouver cet emplacement-là, que cette fresque grandisse au fur et à mesure du film. Voilà. Et puis pour l'histoire des elfes, c'est un peu un clin d'œil parce que je trouve qu'eux, ils ressemblent à des elfes. Et après, il y a tout un truc par rapport à l'Islande, les elfes, les trolls, comme si tous les gens croyaient à fond dans tous ces trucs. Et je trouve que c'est un peu exagéré. Moi, ça m'énerve un petit peu, en fait. Mmh. Et moi, je viens d'une famille où les gens sont assez...
rationnels.
Rationnels. Mmh. Il croit dans la science, enfin bon, ce genre de choses.
Mais en même temps, est-ce que ce pays est complètement rationnel ? C'est-à-dire, est-ce que l'idée aujourd'hui d'une république de 330 000 habitants, qui est là, est-ce que tout ça n'est pas une espèce de forme d'utopie ? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de complètement irrationnel dans ce pays ?
Oui, non, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un mélange. En fait, c'est un pays très moderne, extrêmement moderne, je dirais. Et en même temps, il y a des sortes de croyances dans des choses comme ça. Mais ce qui m'énerve, c'est que parfois, on me demande, alors, est-ce que tu crois dans les elfes ? Enfin, des trucs. Moi, non. Mais je pense que quand on vit dans un pays où les éléments sont déchaînés et on se sent... on se sent petit et j'imagine aussi qu'il y a un certain temps, enfin, dans l'histoire de l'Islande, quand on était dans le vent, dans la neige, dans le noir et qu'on était à cheval et voilà, ou en mer, on devait aussi voir des choses comme ça. Enfin, on avait ce qu'il dit lui, c'est-à-dire on devait un peu peupler. Il y avait tellement peu de monde qu'il valait mieux en imaginer autour de soi pour se tenir compagnie. Moi, c'est un peu ça que je crois, mais après, chacun... voit ça à sa manière.
D'accord. Et on voit beaucoup de choses qui sont assez frappantes quand on se promène en Islande dans le film. C'est peut-être des choses que vous avez constatées aussi, Pascal. J'aimerais bien votre avis, vous, sur le film, puisque vous l'avez vu avec nous à l'instant. C'est effectivement la jeunesse de cette société islandaise. On voit régulièrement des défilés de poussettes dans les rues de Reykjavik, dans Logavegur notamment, qui est la rue principale. Il y a cette idée où on fait des enfants très jeunes, très très jeunes. Il y a aussi cette idée des mères célibataires, hein, si je ne m'abuse. L'emblématique présidente de la République d'Islande était elle-même une mère célibataire pendant de nombreuses années. Et c'est cette idée d'une société un peu microscopique où tout le monde se connaît, comme le dit un de vos personnages. Donc il y a vraiment toutes ces idées-là qui sont entremêlées, entrechoquées dans le documentaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti? En tout cas, est-ce que ça vous rappelle ce que vous avez vécu? Vous disiez que votre dernier voyage en Islande remontait à 2006. Est-ce que vous avez retrouvé dans ce portrait de la ville et de la jeunesse des choses que vous avez croisées en y étant sur place?
Oui, bien sûr.
Peut-être le soleil.
Ça marche?
Est-ce que vous entendez, Pascal?
Oui, je fréquentais des gens assez beaucoup plus jeunes que moi, et ils se trouvent, enfin, d'une vingtaine, 25 ans, et beaucoup effectivement étaient en couple depuis longtemps, il y avait des enfants, et finalement il y avait une pression aussi sociale, il me semblait, chez les gens que je connaissais, des filles qui avaient 25 ou 26 ans qui n'avaient pas encore d'enfants, il y a des sortes de réunions annuelles, des anciens du collège ou des choses comme ça, où tout le monde était à 25 ans marié, avait des enfants, et je trouvais ça assez étonnant. Mais j'avais l'impression, oui, qu'il y avait je ne peux pas en faire une généralité, mais des jeunes gens que je connaissais, il me semble que leurs parents avaient une volonté de les voir mariés, d'avoir des enfants, etc. Et il y a effectivement beaucoup de gens qui ont des enfants très jeunes, ce qui n'est pas le cas.
Je ne suis pas tout à fait.
Enfin, je parle de,
oui, bien sûr,
d'un petit groupe.
Oui, non. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un autre truc qui est peut-être plus gay, enfin, qui est que en France, ou voilà, alors faire un enfant. Beaucoup réfléchir, on va faire 8 ans de fac avant, on va essayer d'avoir une position. Enfin, on réfléchit tellement avant de faire un enfant qu'on se retrouve, et moi la première, à faire un enfant, genre à 35 ans, quoi. En Islande, j'ai l'impression que avoir des enfants, faire des enfants, c'est pas un truc aussi. Je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire d'abord, les gens sont jeunes, les mères sont jeunes, les grands-parents sont jeunes, les arrière-grands-parents sont jeunes. Et il y a beaucoup plus un truc de groupe. Il y a un truc où les enfants sont aussi. Tout le monde s'en occupe un peu, quoi. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Vos parents sont peut-être loin, les grands-parents sont vieux. Enfin, il y a. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a des Islandais dans la salle qui peuvent peut-être mieux l'expliquer l'air que moi. Mais il y a quelque chose de plus simple. Et ce n'est pas catastrophique d'avoir un enfant à 18 ans, à 17 ans. Et peut-être qu'on reste pas avec ce mec-là, mais c'est pas grave, et on a des enfants un peu partout, et à un moment, tout ça se régule un peu. C'est-à-dire, on rencontre un mec qui va prendre un peu toute la tribu, ou pas. D'ailleurs, c'est pas tellement. J'ai l'impression que c'est pas forcément lié à des mecs, tout ça. Enfin, je sais pas.
Non, mais ce qu'on entend bien.
Ouais, alors après, on fait un peu des. Peut-être moins maintenant, mais on faisait beaucoup un peu des enfants un peu n'importe comment. Enfin, je veux dire. C'est pas un énorme machin faire un enfant. Moi, la fois que j'étais en Islande, j'étais avec un ami qui était avec un ami et il avait eu 3 enfants la même année. Enfin, il faut suivre, mais c'est spécial quand même. Non, mais je sais pas, il y a quelque chose de plus.
Mais il y a peut-être aussi tout bêtement une donnée que nous.
À la place.
Oui, à la place, mais il y a peut-être pas que ça, Solveig. Il y a aussi. Quand même, pour l'Islande, en tout cas avant 2008, comme pour l'ensemble des pays nordiques, des sociétés qui sont extrêmement homogènes, parmi les plus homogènes d'Europe. Nous, ici, en France, on n'a aucune idée de ce que c'est que des sociétés qui ont des taux d'immigration en deçà ou autour de 1%, c'est-à-dire tout le monde vit ensemble, complètement ensemble. C'est le cas, c'est aussi vrai tout à fait en Finlande. Des situations de plein emploi ou quasiment, avec un taux de chômage qui est équivalent au taux structurel de chômage, c'est-à-dire autour de 3%. Aujourd'hui, après la crise, l'Islande, corrigez-moi si je me trompe dans la salle, mais autour de 5% après avoir traversé une crise très très grave. Mais ça veut dire que quand même, tout va bien. L'Islande a longtemps caracolé en tête des pays où il faisait le mieux vivre au monde. Donc il y a quand même aussi cette idée qu'on a foi en l'avenir. Tout est quand même plus envisageable dans une situation comme celle qu'a connue l'Islande au moment de ce documentaire plutôt qu'en Grèce ou en Espagne aujourd'hui, je pense.
Il y a aussi quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, et je ne me rends pas compte si ça a changé, ça a sans doute changé depuis la crise, mais c'est que tous les jeunes gens que je rencontrais, enfin beaucoup en tout cas, ils avaient une espèce d'assurance, enfin de foi dans l'avenir, à cause du peu de chômage à l'époque, c'est-à-dire pour eux, leur rêve était complètement réalisable. C'est-à-dire, tu fais quoi, tu veux faire quoi, ben, je vais être écrivain, je vais être poète, je vais être peintre, je vais monter une entreprise, je vais être capitaine de bateau, enfin, un espèce de truc en France qui est toujours beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a une espèce de déprime qui prend les adolescents très vite par rapport au chômage, enfin aux difficultés de trouver du travail, etc., qu'il n'y avait pas en Islande. Et ça, je trouvais ça très frappant et chouette en même temps, parce qu'il y a une espèce de gaieté de « oui, on peut tout faire ». Je veux être cinéaste, ben ouais, bien sûr, je veux être chef d'orchestre, ok, super. Enfin, un truc, et ils y croient sans doute encore à fond, et ça se fait.
Ce qui rappelle beaucoup cette idée américaine, quoi, du rêve, que tout est possible, ce qui... Voilà, sans doute une influence majeure quand même en Islande. Il y a aussi quand même cette idée que tout est possible en Islande et qu'en même temps, c'est pas mal d'en sortir puisque tous les personnages parlent du fait d'aller aux États-Unis. Aujourd'hui, finalement, il y a, selon les statistiques, que 10 à 11 000 Islandais qui vivent en dehors de leur pays. Par contre, il y a rien qu'au Canada, je crois, près de 100 000 personnes qui sont d'ascendance ou qui se reconnaissent d'origine islandaise. Mais c'est vrai que, de par la proximité, on oublie que quand on est à Reykjavik, on est finalement un peu plus proche de New York que de Paris, quand même. Et qu'il y a effectivement cette envie permanente d'ailleurs qu'on retrouve dans le documentaire. Donc tout est possible, mais il y a quand même ce sentiment qu'on est à l'étroit dans le pays.
On a besoin de sortir et de s'enrichir et de rencontrer d'autres gens... Pas toujours croiser les mêmes dans la même rue, etc.
Est-ce qu'avant de regarder les photos de Pascal, est-ce que dans le public vous avez des réactions sur le documentaire? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez aborder? Oui, là-bas. Il y a un micro qui va arriver jusqu'à vous.
Bonsoir, et déjà merci Solveig, parce que moi je suis fascinée par l'Islande depuis très longtemps et vraiment j'ai pris énormément de plaisir à voir ce film. Je me suis beaucoup intéressée, je travaille aussi dans l'audiovisuel, je me suis beaucoup intéressée à la profilmie. La profilmie, c'est l'effet d'avoir une incidence sur les gens qu'on filme, sur leur comportement. Et là dans ce film, on est parfois dans des moments très intimes, elles se douchent, ils dorment ensemble, et pourtant ça paraît très naturel. Donc je me demande comment vous l'avez tourné, quelle relation vous aviez avec eux.
Bah, disons que c'est assez préparé, donc on parle pas mal avant, on réfléchit en fait ensemble à qu'est-ce qu'ils voudraient montrer de leur vie, quelle image ils aimeraient donner d'eux-mêmes. Et l'idée, enfin ce que j'avais envie de faire, c'était un documentaire mais qui soit un peu comme une fiction, c'est-à-dire il y a des champs contre champs. Il y a plusieurs prises, en fait là on le voit pas, mais ils refont plusieurs fois la même chose. C'est-à-dire que quand ils parlent ensemble, il y a une seule caméra, donc pour monter ça, ça veut dire on recommence plein de fois. C'est aussi comme ça que je les ai choisis. C'était une envie de faire un documentaire qui soit proche de la fiction et où il n'y ait aucun interview, et en même temps, parce que c'est un film de commande, il y avait dans la commande je devais aborder certains thèmes concernant le pays et la vie de ces gens dans cette ville. Et donc, je n'avais pas envie que ça soit des interviews. Et donc, j'ai imaginé ce dispositif où ils parleraient entre eux. Donc ça, on le préparait avant. Je disais, mais toi, t'en penses quoi? Toi, t'en penses quoi? Et OK, peut-être on pourrait construire le truc comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait pour, justement, quand elle prend sa douche et qu'elle chante dans sa douche. Voilà, moi, j'avais jamais vu ça dans un documentaire. Donc, je me suis dit, j'ai envie de filmer ça. Donc, j'ai dit à Tena, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit, ouais, c'est une super idée. J'ai dit, peut-être tu pourrais chanter une chanson, laquelle? Et voilà, genre de truc. Ou de quoi vous parlez le matin tous les deux? Ben, parfois, on parle de nos rêves. OK, ben, on pourrait faire une séquence comme ça. Ou la séquence de Svankvit et de sa mère. Mine de rien, c'est une séquence chargée. Quand,
laquelle, à laquelle vous faites référence?
C'est-à-dire quand Svankvit, qui est la coiffeuse, parle avec sa mère du fait qu'elle est alcoolique et qu'en fait, elle l'a envoyée à la campagne. Et elle l'envoyait à la campagne comme beaucoup d'enfants à l'époque, enfin peut-être toujours aujourd'hui. Ils vont à la campagne tout l'été, ils reviennent à l'école. Et là, elle lui dit au téléphone qu'elle va rester là 6 ans. Enfin, il y a un truc que Svankvit a très mal vécu. Et donc, quand elle m'a parlé de ça, elle m'a dit, mais... Enfin, elle m'a parlé de ça et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu en penses si c'était une scène dans le film? Et au début, elle a dit, je sais pas. Et puis, elle en a parlé à sa mère. Et après, elles m'ont dit oui. Donc, ça a été comme ça, des choses qu'on a préparées, en fait, ensemble. Où à un moment, il y a Svankvit, toujours qui... Il y a la musique de Mume, et puis elle se berce comme ça dans une espèce de fauteuil au moment de l'hiver. Et donc, c'était un peu l'idée, voilà, de la mélancolie, de ce qu'elle pouvait penser de sa vie et tout ça. Et puis, à un moment, je lui ai dit, ce serait beau si tu pleurais. Et elle m'a dit, mais je ne suis pas une comédienne, on ne fait pas une fiction. J'ai dit, d'accord, tu as raison. Et donc, on ne l'a pas fait. Mais c'est bien que les gens qu'on filme puissent aussi dire non, enfin, stop, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que ça a été préparé. C'est un peu le seul documentaire que j'ai fait vraiment comme ça, mais c'était aussi une expérience. Jusqu'où, enfin, est-ce que je peux utiliser les outils de la fiction pour faire un documentaire?
C'est intéressant de savoir qu'effectivement, il y a un travail de direction d'acteur quand même, d'une certaine manière. Et...
À fond, en fait. Ouais. Enfin, c'est très mis en scène. Il n'y a rien, mais même dans tous les documentaires que j'ai faits, il n'y a rien de volé aux gens. J'aime pas. Donc, ils savent quand je les filme, ils sont d'accord pour faire ce qu'ils sont en train de faire et je filme pas des heures. En fait, je filme peu, mais on parle beaucoup et on réfléchit, on exerce les choses. Mais une fois que c'est... en fait, je dis moteur, je dis action même dans les documentaires. Et là, les gens savent qu'ils sont filmés. Donc, c'est pas... Je filme pas avec une petite caméra vidéo pendant des heures et après... Voilà, je vais chercher, fouiller là-dedans, trouver le truc qui peut-être a échappé aux gens et qui serait formidable. C'est plutôt on décide avant de qu'est-ce qu'ils veulent bien donner au film ou pas. Et ça m'est déjà arrivé que des gens me disent des choses pendant que je les filmais et que je leur dise ça, on va pas le donner à la caméra, on va pas en parler. C'est-à-dire les gens, il y a aussi du hors-champ, les gens peuvent... imaginer des choses sur les personnages dans les fictions ou les documentaires sans que ça soit forcément dit. Enfin, c'est ce genre de réflexion.
Merci.
Est-ce qu'il y a une autre question? Une autre réaction? Oui. Je crois.
Enfin, moi, je ne peux pas vraiment réagir au film, mais dire... qui rend compte de choses formidables. Moi, j'habitais 4 ans et demi en Islande. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un pays de liberté. Et ça rend tout possible. Voilà. C'est très important. C'est un pays de liberté. Les gens, c'est ce que vous disiez, Saloïc, ont foi en ce qu'ils peuvent faire. Et ils peuvent le faire parce qu'ils sont libres.
Oui, c'est très joli ce que vous dites. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le film, moi je trouve, et c'est pour ça que c'était intéressant de savoir qu'il y avait ce projet de mise en scène et pas seulement de captation du réel, c'était finalement ces mouvements à chaque fois inverses, pas antinomiques mais presque contradictoires entre le moment de mélancolie par exemple du personnage dont on parlait à l'instant et puis les moments de crédité où on parle de la sexualité très, très facilement entre cette envie d'ailleurs et puis ce repli un peu insulaire comme ça qu'on ressent. Je trouve que voilà qu'un film épouse des contradictions comme ça et finalement les anime aussi bien, c'est toujours assez beau. Voilà, c'est le moment de voir les très belles images de Pascal Fellono. Est-ce que la technique va marcher? Je pense que oui, parce que les essais marchaient. Donc c'est le moment en régie de connecter tout ça. Donc maintenant vous connaissez tous le mot de passe. Attends, t'as pas la connectique encore. Voilà. Alors vous allez voir défiler effectivement toute une série d'images. Donc pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, Pascal, vous avez fait le choix de ne pas photographier les images un peu attendues et les clichés qu'on voit publication après publication sur l'Islande, mais d'aller chercher dans les espaces urbains des éléments presque incongrus avec un rapport à la couleur très, très important. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, même si c'est sans doute difficile de parler de son travail photographique?
Moi, j'adore marcher, donc je crois que j'ai marché dans chaque ville, chaque rue de Reykjavik. J'y ai passé des semaines entières à me promener, et j'ai fait énormément de photos, et effectivement de ces paysages urbains, de ces... dès que j'y suis arrivé, j'ai vu cette architecture, ces choses en construction, et j'ai tout de suite eu envie de faire une série de photos là-dessus. J'aurais pu peut-être vous donner des... Ça va trop vite.
On peut faire quelques pauses, mais c'est vrai que tous ces paysages urbains émerge en Islande. On a compris en disant tout à l'heure que finalement les deux tiers de la population vivait à Reykjavik et dans son agglomération. Il faut bien absorber toute cette population, et effectivement ça passe par la création de nouveaux quartiers résidentiels.
Oui, effectivement il y a beaucoup de construction. En 2004, il y avait par exemple une colline que j'avais l'habitude de voir en passant en voiture, et l'été suivant, elle était déjà quasiment construite.
On peut s'arrêter là une seconde, parce que c'est effectivement sur ce paysage de en tout cas sur cette image de fête foraine, c'est un point commun évidemment avec le...
C'est la même.
Avec le film, c'est le même endroit.
Elle change d'endroit. Elle était sur le port. Ouais. Alors que là, elle était près d'un supermarché. Mm-hmm. Mais... je ne sais pas vraiment quoi ajouter.
Continuons.
Oui.
Peut-être simplement, quand vous exposez vos photographies, pour les avoir vues, elles sont jamais, en tout cas celles que moi j'ai vues, ne sont pas autonomes. Vous travaillez la forme du triptyque ou du diptyque et vous mettez en relation plusieurs images encadrées.
Oui, en effet, c'était cette exposition qui est dans votre bureau.
Maintenant, oui.
Elle comprend effectivement des triptyques et des diptyques qui ont été montés un peu arbitrairement pour garder des lignes qui vont d'une image à l'autre et qui ne sont pas nécessairement prises au même endroit. C'est des montages assez fictionnels finalement.
Et alors quand vous étiez en Islande, là, on... On pense à la Costa Brava.
Bon, voilà, c'est le choix. Il y a une trentaine d'images. C'est le choix que j'avais fait pour aujourd'hui.
Et quelles sont les images que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas pu faire? C'est-à-dire quelles étaient finalement les envies que vous aviez en étant en Islande, et est-ce que vous n'avez pas photographié parce que ça, vous, ça n'était pas là, ça n'existait pas ou ça ne correspondait pas à, à ce qui finalement devait être pris? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des choses de cette nature?
Ben, j'essaie de travailler souvent avec la lumière et elle est souvent pas là. Où il y a une lumière somptueuse avec des beaucoup de nuages, des reflets, etc. Mais dès qu'on s'arrête en voiture ou en vélo, c'est terminé aussi vite que. Il y a une variété de temps et de changements climatiques. Extrêmement rapide et j'ai raté presque tout parce que non mais par rapport à ce que j'ai vu et à mon envie des, du moment, le temps de garer une voiture ou même de descendre d'un vélo, il était trop tard.
Donc faut être rapide.
Voilà, que je ne le suis.
D'accord.
Mais c'est ça qui est bien en Islande, c'est qu'on peut aller 40 fois le même endroit, c'est jamais le même endroit.
C'est ce que je faisais, en effet. Ouais, c'est
parce que la lumière change tout le temps, tout le temps.
J'ai des dizaines de photos des mêmes lieux et c'est parfois la 14e fois que j'ai enfin une image qui me paraît moins... Enfin, qui ressemble à ce que je souhaite. Et effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à revenir... Ah oui, pardon. À revenir toujours aux mêmes endroits. Quand je voyais un immeuble qui me plaisait, j'y revenais et mais parfois, je n'ai jamais réussi à en faire quoi que ce soit. Enfin, souvent.
Bon, et question, question idiote, donc réponse brillante attendue. Est-ce que Reykjavik est une ville? Est-ce que c'est une capitale au sens où on l'entend? Est-ce qu'après Dubaï, Liverpool, qui étaient les deux villes donc, qui avaient fait l'objet d'une soirée dans votre cycle ici, est-ce que... Est-ce que finalement, Reykjavik, c'est une capitale au sens où on l'entend? Est-ce qu'il y a une culture urbaine? Finalement, les seuls signes urbains qu'on voit dans votre film, c'est ceux que vous avez vous-même construits en leur demandant de faire une fresque. Mais qu'est-ce qu'il en est de cette culture urbaine et qu'est-ce qu'il en est de cette ville, cette, ce statut de capitale? Parce que c'est une... c'est quand même un endroit étrange.
Ah oui, tout, enfin.
C'est trop dur comme question.
Moi, en même temps,
ni Liverpool ni Dubaï, donc je serais incapable de faire la comparaison.
Non, mais si on la compare avec les autres capitales européennes, fatalement, dans ce qu'on voit de vos, de votre documentaire ou de vos photos, on se rend bien compte que on est ailleurs, on est dans un dans un dans une autre logique architecturale, une autre logique d'urbanisme, une autre logique de société. Non, ça vous, il n'y a qu'à moi que ça fait ça.
Non, je ne sais pas vraiment quoi en dire, à part que la nature y est quand même omniprésente. À quelques mètres de d'immeubles, on peut se retrouver dans un champ de lave. Et je ne pense pas que ce soit effectivement le cas de beaucoup de capitales. Je n'en connais pas beaucoup. Alors...
Non, mais il y en a où la nature est très présente. Si on pense aux autres capitales d'Europe du Nord, à Stockholm, à Helsinki, qui voilà, peuvent être...
Ce sont des parcs.
Ce sont des, oui, construits autour d'un archipel. Mais Reykjavik, c'est encore plus petit, plus ténu, peut-être. Donc je voulais simplement avoir votre réaction là-dessus. Mais je l'avais dit avant, hein, c'était une question idiote. Donc... Et peut-être, puisqu'on on a déjà pas mal consacré de temps, est-ce que vous, avec votre appréhension, sinon connaissance de Reykjavik, est-ce que vous imaginez un avenir pour cette ville? Comment vous imaginez le Reykjavik de demain et l'Islande de demain? Parce que finalement, si on y réfléchit, c'est un pays qui a déjà un statut, un écho mondial beaucoup plus important que sa taille le prédestinait à avoir. Est-ce que vous, comment vous imaginez cette, ce pays qui est le vôtre d'une certaine manière dans, dans l'avenir et cette, cette ville dans l'avenir?
Moi, je ne sais pas très bien, mais il y a l'ambassadeur d'Islande dans cette
salle. Que nous saluons, madame.
Est-ce que vous voudriez dire quelque chose là-dessus? Non, non. D'accord. Très intéressant, ouais. Non, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on a l'impression qu'on construit n'importe comment, n'importe quoi, partout. Ça, je trouve ça assez effrayant. J'imagine qu'il y a des règles et tout ça, mais je ne comprends pas lesquelles elles sont, quoi. C'est-à-dire que ils ont construit des immeubles, des immeubles, des immeubles. Bon, et après, avec la crise, il n'y a personne qui habite dedans, quoi, parce qu'ils ont construit et les gens ne sont pas venus, finalement, quoi. Parce qu'il n'y a plus de travail. Donc ça donne des décors très étonnants avec justement la lave, plein d'immeubles vides. C'est assez effrayant.
Oui, mais je pense que tout comme la question de la richesse était une question d'absorption, la question de la population est une question d'absorption. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'apesantir sur la crise de 2008 et son évolution jusqu'à aujourd'hui, parce que je pense que c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas et qui nous dépasse. Mais ce qui était évident, en tout cas dans la situation de l'Islande en 2008, c'est que c'est un pays, une économie qui créait tellement de richesses qu'il n'était plus capable de l'absorber et de la traiter à l'intérieur même du pays. Et la question de Reykjavik, elle est aussi celle un peu de l'absorption, c'est-à-dire comment est-ce qu'un pays qui a déjà absorbé, enfin, dont la capitale a déjà absorbé les deux tiers de la population peut continuer à grandir sereinement sans se dénaturer, se défigurer, enfin voilà, c'est une question. Alors on n'a pas, madame, la réponse à donner, mais c'est une question qui, à mon avis, mérite d'être posé, parce que c'est un endroit fascinant, l'Islande, c'est un endroit magique. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des seuils quand, dans le documentaire, vos jeunes personnages disent qu'il y a plus de touristes qui viennent en Islande qu'il n'y a d'habitants. On constate bien qu'il y a, quelque chose là de l'ordre du seuil qui est en train d'être un peu dépassé et qui a peut-être des points d'équilibre à respecter.
En même temps, il y a beaucoup de place.
Il y a beaucoup de place, c'est vrai. C'est vrai.
Je ne suis pas une spécialiste du tourisme en Islande, mais j'ai quand même l'impression que les gens qui vont en Islande en tant que touristes, c'est des gens qui aiment la nature, qui aiment marcher, et je crois qu'ils sont assez respectueux de la nature. Enfin, j'ai l'impression, c'est-à-dire, je pense que quand on choisit d'aller passer son été en Islande, on sait qu'il peut pleuvoir tous les jours pendant 4 semaines si on est malchanceux. J'ai l'impression que c'est un vrai choix, quoi. C'est pas comme partir je sais pas, je m'y connais pas trop, mais j'ai pas l'impression que les touristes abîment le pays. J'ai l'impression que c'est très important pour l'Islande, quoi. Et en plus, je crois que c'est un revenu hyper important pour le pays.
Je voulais juste vous lire un petit extrait d'un livre de photographie de Sigurgeir Sigurgsson, qui lui, à l'inverse des photos de Pascal, a photographié l'Islande dans ce qu'elle a de plus spectaculaire. Et ce livre est présenté et préfacé par un des grands intellectuels islandais, qui est Thorfinn Tulinius, spécialiste de littérature médiévale. Et il écrivait quelques lignes, et je trouve qu'elles sont importantes à entendre. « Il est monde, changeant sans cesse et pourtant toujours la même, ingrate et généreuse, isolée et ouverte, forte et fragile, l'Islande est comme tous les pays faite de contradictions. Si, comme le montrent admirablement les photographies de Sigurgeir Sigurgsson, ses paysages ne sont pareils à nul autre sur la terre, son peuple, lui, est confronté aux mêmes défis que tous les peuples. Préserver le passé, faire face au présent, préparer l'avenir. Ni puissant, ni riche, situé hors des grands axes de communication et à l'abri des guerres, son territoire n'étant convoité par aucune puissance étrangère, le peuple islandais a eu la chance de pouvoir cultiver sa singularité tout en s'adaptant au monde moderne. L'Islande a certes son lot de problèmes, mais sa population peu nombreuse, son homogénéité, La quasi-absence du chômage jusqu'à ces derniers temps, ainsi qu'un écart relativement faible entre les revenus, font qu'il y a peu de violence dans les relations sociales et les rapports humains demeurent directs et chaleureux. Les photos de ce livre montrant des Islandais au travail ou pendant leurs loisirs témoignent d'ailleurs de la décontraction et de la confiance en soi de ce peuple. On est bien en Islande. Cela vient sans doute de la chance que ses habitants ont eue d'être à l'abri des grands conflits historiques, mais c'est aussi lié à la nature du pays. Il y a le confort matériel des maisons chauffées par la géothermie, sans oublier la volupté des bains chauds. Il y a aussi la beauté des montagnes, de la mer, des cieux toujours changeants. Il y a surtout un rapport unique au paysage, un sentiment que l'homme ne l'a pas trop marqué de son empreinte, le fait qu'on puisse s'y oublier sans se perdre, un pays inhumain sans être hostile, un pays qui permet de comprendre ce qu'Albert Camus a voulu dire par la tendre indifférence du monde. Voilà. Je trouve que c'était un résumé assez brillant, comme toujours avec Torfi Tulinius, de ce qu'est l'Islande. Je ne sais pas si vous avez encore des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on est passé trop vite, des bêtises qu'on a dû dire? Sûrement.
Des grosses bêtises,
fatalement. Est-ce que vous avez, l'un comme l'autre, un coup de cœur islandais, un secret caché islandais, un petit trésor comme ça à partager au public?
J'en ai un, je n'ai pas le droit de le dire, je l'ai promis
à
une famille qui me l'a fait découvrir.
C'est un endroit?
Oui.
D'accord.
Un petit fjord. On m'a interdit d'en parler.
Bon. D'accord. Solveig?
Bon, mais j'en parlerai pas non plus, alors.
D'accord. Moi, je vais en parler. Moi, c'est des coups de cœur pour peut-être vous inviter à prolonger l'imaginaire, puisque il se passe beaucoup de choses en Islande. On a parlé de tout, presque, en tout cas, on a presque évoqué ou survolé tous les sujets, sauf la culture, qui est quand même un des axes principaux et un des vecteurs à la fois de communication et de rayonnement de l'Islande, puisque depuis les années 90, les Sugar Cubes, Björk, Sigur Rós aujourd'hui, Of Monster and Men et une kyrielle d'autres groupes musicaux, l'Islande rayonne sur la carte du monde. Il y a beaucoup d'auteurs en Islande, beaucoup d'écrivains. Si on pouvait en citer quelques-uns sans être complètement injuste, moi je vous invite vraiment, vraiment à découvrir la trilogie chez Gallimard de Jón Kalman Stefánsson, parce que je pense que depuis 5 ans, il n'y a pas eu l'émergence d'un écrivain de littérature européenne aussi fondamental que Jón Kalman Stefánsson. Donc voilà, c'est un immense écrivain. Son nouveau livre vient de sortir chez Gallimard, tandis que les deux autres sont en format poche. Donc vous pouvez être curieux sans vous ruiner. Je suis très heureux aussi de voir que les éditions Métellier, qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès avec les polars d'Arnald Jurindridason et ceux de Arni Sorarinson, publient maintenant de la littérature blanche islandaise, à savoir un très grand roman de Gudbergur Bergson, qui est un immense auteur islandais qui a plus de 80 ans et dont le livre va sortir dans les jours qui viennent. Et puis peut-être pour citer un photographe islandais, il y a eu l'année passée au Festival d'Arles la découverte assez éclatante d'un jeune photographe islandais qui s'appelle Petur Thomsen, qui est absolument magnifique, qui lui photographie les paysages d'Islande, mais d'une manière assez étonnante, c'est-à-dire avec beaucoup, beaucoup de distance. Ce qui fait que les paysages en deviennent quasiment abstraits et qu'on ne voit plus ce qu'il photographie. Il y a pourtant un aspect assez militant dans son travail, puisqu'il a photographié notamment toutes les usines d'aluminium d'Islande qui, selon lui et selon beaucoup de monde, défigurent une partie du paysage islandais. Donc Petur Thomsen, absolument magnifique. Il va être, à mon avis, exposé très bientôt en France. Et puis pour la musique, on en parlait entre nous tout à l'heure, mais il y a beaucoup, beaucoup de groupes. Il y a évidemment Moom, qu'on aime beaucoup, qui, euh, qui illustrait le documentaire de Solveig, dont le nouvel album va sortir dans quelques mois avec fatalement une tournée française. Et puis il y a deux groupes que moi j'aime particulièrement, donc là c'est des coups de cœur personnels. Il y a un groupe islandais au nom très français qui s'appelle Pascal Pinon. Voilà, ça ressemble à un personnage de comédie française, mais c'est le groupe vraiment à écouter si vous pouvez vous connecter ce soir. Écoutez-le, leur album vient de sortir chez More Music, et c'est deux jeunes, très très jeunes islandaises de 16 ans, sœurs jumelles. C'est absolument magnifique, c'est une espèce de folk pop très belle. Et puis un autre groupe qui est aussi très intéressant, d'abord parce que musicalement c'est très bien, ça s'appelle Retro Stefson, et aussi parce que pour peut-être une des premières fois, il s'agit d'Islandais d'origine africaine qui s'illustrent et qui commencent à avoir un succès très important. Il y a un morceau emblématique qui s'appelle Kimba, qui est absolument redoutable. Et puis sur la question de la crise en Islande, il y a Rue 89 a publié il y a quelques jours un livre électronique, donc vous ne le trouverez pas en librairie, vous pouvez uniquement le télécharger au tarif de 2 euros quelque chose, qui est une enquête en Islande vraiment extrêmement brillante sur la situation du pays aujourd'hui et la crise en l'occurrence. Ça s'intitule « Comment l'Islande a vaincu la crise ». Moi, je vous le conseille vraiment vivement, parce que ça retourne un peu tous les clichés sur l'idée que l'Islande se serait sortie de la crise et retrouverait 5% de croissance en ayant refusé de payer tous ses créanciers. C'est infiniment plus compliqué que ça, et je pense que c'est l'ouvrage le plus intéressant du moment sur la crise islandaise. Voilà. Je ne sais pas si on a répondu à toutes vos attentes. Si vous avez vous-même des choses à rajouter, c'est évidemment honneur aux invités, à vous de conclure. Pascal, tu trouves que tu as déjà beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a une exposition de tes photographies qu'on peut voir bientôt?
Pas pour l'instant.
D'accord, mais il y a un site internet, pascalfelono.com.
Non.
Non, c'est quoi?
Free.fr,
je fais bien de poser la question.
Voilà. Comme en préparation, mais...
Voilà. Et donc, un certain mercredi de mars,
ouais, 20 mars,
courons tous dans les salles voir Queen of Montreuil.
J'aurai besoin beaucoup de vous et de tous vos amis.
En tout cas, le teaser est très agréable et très drôle.
Ouais.
Le phoque dans la baignoire marche très bien. Voilà, la scène est très très belle dans le teaser, donc on a très envie de voir.
Ça se termine par des Islandais qui disent « Vive la France ah. !» Je vous laisse regarder. Voilà, en tout cas, moi, j'étais très contente d'être là avec vous et de revoir le film et de voir cette photo que je ne connaissais pas.
Moi aussi, je suis très contente.
En tout cas, merci à tous. Moi, si je peux juste vous donner un petit rendez-vous. J'ai la responsabilité d'un festival qui se déroule chaque année en novembre, auquel à la fois Solveig et Pascal ont participé. Ça s'appelle les Boréales, comme les Aurores. C'est à Caen, à 2 heures de train de Saint-Lazare. Et l'Islande sera le pays invité d'honneur en novembre du 15 au 30. Et vous y retrouverez beaucoup, beaucoup d'artistes islandais. La programmation... commence déjà à être en ligne par petits bouts sur notre page Facebook. Voilà, merci en tout cas à la BPI pour cette invitation. Merci de votre fidélité, de votre curiosité à ces événements. Et merci à vous deux.